Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de MacGénération. La fête est vraiment finie. Après l'Union Européenne, ce sont les États-Unis qui s'attaquent au jardin fermé d'Apple. Le département de la justice américain accuse Apple d'avoir profité de sa position dominante pour soutirer plus d'argent aux consommateurs et aux développeurs. Touché en plein cœur, Apple peut-elle continuer sa route comme si de rien n'était ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Google pourrait occuper une nouvelle place stratégique dans l'iPhone. Les Hackintosh semblent menacés et on espère que vous n'avez pas épuisé votre ration de 3Go pour pouvoir écouter la suite de ce podcast. Nous sommes le samedi 23 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après l'Union Européenne, ce sont donc les États-Unis qui s'attaquent durement à Apple. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bah écoute, je pense que ça va beaucoup mieux que le service juridique d'Apple qui a passé sans doute une sale semaine. Et oui, sur bien des sujets, pour Cupertino, c'est vraiment difficile de voir le verre à moitié plein en ce moment.
Ouais, on va en parler tout de suite. Donc c'était dans l'air depuis un moment et c'est maintenant officiel. Le département de la justice des États-Unis ainsi que 16 États américains accusent Apple d'abus de position dominante. Alors le ministère inculpe Apple pour avoir maintenu un monopole sur le marché des smartphones et en avoir profité pour s'enrichir de manière indue. Alors cette plainte concerne 5 points en particulier. Premièrement, Apple est accusé d'avoir entravé les super applications, c'est-à-dire des applications qui englobent plusieurs programmes, avec comme conséquence une migration plus difficile vers Android. Le département de justice reproche aussi à Apple d'avoir barré la route des services de cloud gaming, d'avoir dégradé l'expérience utilisateur des messageries multiplateformes, d'avoir restreint les fonctionnalités des montres concurrentes de l'Apple Watch et enfin d'avoir forcé l'utilisation d'Apple Pay pour les paiements mobiles. Alors ça fait beaucoup de charges et certaines recoupent des problèmes que l'Europe veut réguler avec le DMA. Ce procès a d'ailleurs été assimilé à d'autres grandes affaires antitrust, comme celle d'AT&T, qui avait conduit carrément à un démantèlement de l'opérateur, ou celle de Microsoft au début des années 2000, qui était alors tout puissant avec Windows. Christophe, est-ce qu'on peut parler d'un tournant historique pour Apple ?
Si vous êtes jeune et vous rêvez de travailler pour Apple, fait des études d'avocat ou de juriste, mais pas de développeur. Il y a beaucoup, beaucoup là.
Ouais.
Et ils sont très très bons là-dedans. Plus sérieusement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans une séquence actuellement. C'est un véritable tournant dans l'histoire d'Apple. Je pense qu'on peut maintenant le dire, même si ça faisait quelques temps qu'on le pensait assez fort, c'est que l'âge d'or de l'iPhone, il est définitivement derrière. Et tout ce que Apple a fait autour de l'iPhone, ça va devenir finalement presque autant un souci qu'une solution pour Apple. Là, ce qu'on voit finalement, alors on va un peu passer du coq à l'âne, mais c'est que le prochain chapitre, Apple n'a pas su le préparer. Quand je parle de nouveau chapitre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé de marché où innover et lancer un nouveau cycle de croissance. Alors qu'est-ce qu'a fait Tim Cook ? Il a cherché à exploiter au maximum le potentiel financier de l'iPhone. D'ailleurs, on l'a vu avec sa politique de service à outrance. Ils ont sans doute, enfin plus que sans doute, ils ont poussé le curseur un petit peu trop loin. Et là, je crois que c'est le moment de passer, c'est le moment de payer l'addition. Je suis assez inquiet parce que quand on voit ce qui se passe en Europe, je doute d'une issue très favorable aux États-Unis. D'ailleurs, c'est dommage finalement que quelque part, elle n'ait pas profité de ces histoires de DMA pour se remettre vraiment en question, pour penser à un nouveau schéma de travail, et voilà, et dire, regardez ce qu'on a fait avec l'Europe, il y avait peut-être des choses qui étaient effectivement perfectibles, voilà comment on souhaite travailler, et dire donc aux personnes responsables aux États-Unis, regardez notre nouveau schéma de travail, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça lui aurait peut-être évité un procès, ça lui aurait peut-être évité des milliards de dollars à payer sans doute tôt ou tard, parce que Apple ne va pas s'en sortir indemne, c'est une évidence. Alors après qu'Apple se défende vraiment bec et ongles, quelque part c'est humain, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des milliards et des milliards de dollars qui sont en jeu. Une fois qu'on a dépeint ce tableau, moi franchement, enfin tu en parles d'ailleurs, moi cette séquence elle me rappelle un peu le Microsoft de la fin des années 90. Et quand on se replonge un petit peu à cette période-là, finalement c'est mauvais à tout point de vue. Je veux dire, l'image de marque de Microsoft en a quand même beaucoup pris à ce moment-là. Enfin, c'était quand même pas une période glorieuse pour Microsoft. Ça a été aussi mauvais à l'époque pour l'avenir de Microsoft, parce que quand on passe son temps à se défendre, eh ben, on a moins la tête tournée vers l'avenir. Et voilà, on peut se rappeler aussi que les années 2000 pour Microsoft, ça n'a pas été des années fastes, hein, ça a vraiment été. Enfin, voilà, on pensait même à un moment donné que Microsoft finalement allait devenir une société high-tech de deuxième rang. Hein. C'est un petit peu bête, mais quand certains ont créé l'acronyme GAFA, il n'y avait pas Microsoft. Alors Microsoft a fait ces dernières années un retour au premier plan assez fantastique. Mais voilà, il y a eu une longue traversée du désert après.
Ouais,
Et puis voilà,
j'avais lu d'ailleurs à propos
oui.
de Microsoft que Bill Gates avait dit a posteriori que le procès antitrust au début des années 2000 avait fait perdre du temps à Microsoft et lui avait fait peut-être un peu rater aussi le virage du smartphone. Ils étaient plus occupés à essayer de trouver des concessions avec le département de justice américain à propos de Windows que de regarder le marché du mobile.
Ouais, c'est certain. Et justement, je voulais en revenir avec lui. Il n'en était pas sorti indemne de cette affaire, hein. Ça l'avait lessivé, il l'avait reconnu. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est au milieu ou à la fin du procès. Enfin, il avait quand même démissionné de son poste de CEO. Et ça aussi, c'est quelque chose que. Enfin, il faut que Tim. Enfin, j'espère que Tim Cook a tous ces éléments en tête. Et à savoir, si Apple se lance dans une défense systématique par rapport à tous les faits qui lui sont reprochés, je pense qu'Apple est mal barré. Alors toi, je sais que tu as suivi en début de semaine, alors là c'était à Bruxelles, le workshop où les employés d'Apple se sont expliqués et ont montré les concessions qu'ils avaient faites. Alors, je ne sais pas comment toi tu interprètes ça.
C'était intéressant à regarder parce que donc les parties concurrentes aussi avaient pu s'exprimer. Donc il n'y avait pas Spotify directement, mais ils étaient représentés par la coalition for App Fairness. Il y avait Altstore, enfin, il y avait beaucoup de monde. Et on voyait qu'Apple était quand même faisait preuve d'une certaine ouverture. Sur certains sujets, ils disaient qu'ils étaient prêts à faire d'autres concessions et qu'ils étaient à l'écoute des développeurs. Mais sur d'autres, par exemple le Core Technology Fee, que certains estiment contraire au droit européen, au DMA, là, ce n'était pas question d'abandonner ça. Et Apple avait martelé que, d'après eux, c'était dans les clous du DMA. Donc, que ce soit avec Bruxelles ou avec le département de justice américain, j'ai l'impression qu'Apple est parti pour des affaires qui vont durer des années et des années.
Mais tu vois, dans ton papier, tu reprenais les propos d'un juriste d'Apple qui disait que ces 18 mois avaient été extrêmement intenses pour lui, enfin, pour eux. Alors, on avait un petit peu souri, mais je crois qu'il avait profondément raison. Et ça illustre parfaitement le fait que si Apple se retrouve grosso modo à se battre, c'est pas pour sa survie, mais peut-être qu'il va y avoir des menaces qui vont être franchement déplaisantes. Oui, forcément, c'est moins de temps à penser à qu'est-ce qu'on va faire en 2025, 2030, comment on va arriver à développer l'informatique spatiale ou je ne sais trop quoi.
Oui, c'est ça. Si les équipes maintenant d'ingénieurs de développement doivent faire des allers-retours avec les équipes juridiques à chaque développement de nouvelles fonctions, c'est sûr que ça va compliquer vraiment la tâche d'Apple pour les années à venir. Ouais. Et ben, en parlant de développement, on va parler d'iOS 18. Donc ça pourrait être une des plus grosses mises à jour distribuées par Apple, notamment parce qu'on pourrait y trouver plein de fonctionnalités dopées à l'IA. Alors on sait qu'Apple travaille sur un paquet de technologies dans ce domaine, on voit souvent passer des publications scientifiques, mais d'après Bloomberg et le New York Times, Tim Cook aurait demandé un coup de main à quelqu'un, c'est Google. Et ouais, Google pourrait être responsable de certaines nouveautés par le biais de son modèle de langage Gemini. Christophe, si cette intégration se confirme, ça ne serait pas un aveu d'échec pour Apple?
Ça, c'est compliqué, ouais, c'est difficile à dire. Là, ce que je te propose encore, c'est de remonter un petit peu dans le temps, et ça me rappelle encore la fin des années 90, et c'est le thème de la semaine. Lorsque Steve Jobs était revenu aux commandes d'Apple, donc Apple avait lancé assez rapidement l'iMac et avait beaucoup communiqué sur les capacités à faire facilement des petits films avec son ordinateur, brancher sa caméra avec. Sur l'iMac, avec iMovie, tout ça. Et dans le même temps, Apple n'avait pas du tout vu venir l'émergence de ce qu'on peut appeler maintenant la musique numérique. Et elle s'était retrouvée un petit peu, voilà, complètement Elle était clairement en retard sur le sujet, c'était un sujet qui était important parce que finalement, Apple visant le grand public avait envie d'écouter de la musique sur son ordinateur, voilà. Et là, bon, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle avait fait après, par la suite, preuve d'agilité, parce qu'elle avait rapidement acheté SoundJam qui allait devenir iTunes. La première grande fonctionnalité d'iTunes, ça nous fait rire maintenant, c'était évidemment de pouvoir lire des MP3, mais c'était aussi de pouvoir graver des CD audio. Bon, elle s'était pas arrêtée en si bon chemin. Elle avait fait d'ailleurs de la publicité pour vanter la qualité de ses solutions en ce moment-là. Ensuite, on connaît l'histoire. Elle a lancé peu de temps après l'iPod, puis l'iTunes Music Store. Donc, elle s'était retrouvée finalement dans une position où elle était un petit peu à la ramasse et finalement, elle est devenue leader sur ce créneau. Tout ce qui est IA générative, on a l'impression, enfin, j'ai un peu une impression similaire. Apple n'a pas vu le train partir. Et là, de l'extérieur, c'est toujours compliqué de se prononcer, mais on a quand même l'impression qu'elle agit dans l'urgence. Et que voilà, d'ailleurs, Tim Cook parle énormément d'IA, on a l'impression que il y a autant une idée de dire, voilà, on est sur ce créneau-là que aussi dire aux investisseurs, non, non, ne vendez pas, gardez nos actions
Ouais.
Apple bien au chaud, hein, faut pas que le cours d'action se casse la gueule.
Ça ressemble beaucoup à ça, oui.
Voilà. Donc, bon. Alors, voilà, le seul problème par rapport à iTunes, je dirais, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de concurrence. Il y a tout de suite des enjeux financiers qui sont 100 fois plus importants. Parce que, bon, à l'époque, les lecteurs de MP3, malgré tout, enfin, même si c'était devenu rapidement un phénomène avec notamment les solutions de pirate, enfin, les solutions de piratage. Avec Napster et Co. Reste que si, enfin, si, c'est pas si, l'IA est une priorité, ça c'est une évidence, c'est aussi normal qu'Apple finalement exploite toutes les pistes. Est-ce qu'il faut faire du 100% maison tout de suite, ou est-ce qu'on peut éventuellement collaborer avec d'autres acteurs? Voilà, la presse a parlé d'une éventuelle collaboration avec Google, il est aussi question d'une collaboration avec OpenAI. Après, voilà, qualifier ça d'échec ou pas, il faudrait aussi avoir le contenu précis de cette collaboration. Et pour
C'est pas
l'instant,
très clair,
on en est au stade d'écho, de rumeurs. Est-ce que ils veulent un modèle? Est-ce que finalement c'est plutôt des serveurs? Enfin, j'en sais rien. Donc pour l'instant, c'est sans doute un peu trop tôt. En tout cas, on attendra de ce point de vue-là la WDC avec une certaine impatience, mais malgré tout, on a quand même l'impression, voilà, enfin, même par rapport au sujet juste qu'on vient d'aborder, que Apple s'est peut-être un peu trop dispersé et n'a pas misé sur les bons chevaux au bon moment.
Sans remonter jusqu'à iTunes, ça me fait penser, si ça se confirme, cette intégration de Gemini, un peu aussi au lancement de l'iPhone. Au départ, iOS avait Google Maps intégré, et c'était le temps qu'en fait Apple lance son propre service de cartographie. Donc ça peut être une solution aussi temporaire, le temps que tous les modèles se mettent en place pour
C'est
Apple.
possible, mais certains nous diront que c'est inquiétant parce que Plan a quand même. Enfin,
Il
moi
a
j'aime
fallu
bien.
8
Je
ans,
suis
ouais.
plus. Ouais, il a fallu quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et là, ça veut dire que voilà. Bon, non, mais il y a sans doute de ça aussi. Mais ce qui est presque étonnant, c'est moi aussi la chose qui m'a surprise, c'est que. Alors, je pense que Google doit sans doute voir cela comme une aubaine. Mais bon. Enfin, c'est toujours très difficile à dire, et puis voilà, on est dans une course de chevaux qui évolue très très rapidement, mais Gemini donnait quand même pas spécialement l'impression d'être en avance sur les autres.
Ah non, non, il est pas plus fort que les autres, il est à peu près équivalent à OpenAI, ouais. Sans transition, on va parler de Mac, ou plutôt de faux Mac. Alors ça se voit pas comme ça, mais Apple a fait un grand ménage de printemps dans macOS 14.4. Des anciens pilotes Bluetooth et Wi-Fi qui ne servaient plus ont été retirés de cette version. Alors ils ne servaient plus pour les Mac, mais ils étaient encore utilisés en fait par les Hackintosh, ces PC sur lesquels macOS est installé. Ce retrait complique beaucoup la tâche de la communauté Hackintosh, qui n'a pas de solution idéale pour le moment. Et si Apple continue de virer les composants obsolètes de macOS, la situation ne va faire que qu'empirer pour les Hackintosh. Tu penses que ces faux Mac ont encore un avenir, Christophe?
Ah, il y a 6 mois, je t'aurais dit oui. Et même si les PC ARM, ARM venaient vraiment à se démocratiser, je vois pas comment on arriverait à faire un Hackintosh à partir d'un PC. Hein, c'est pas parce que c'est écrit ARM dessus que ce sont des puces qui sont identiques, bien au contraire. Voilà, ils n'ont pas forcément le même jeu d'instructions et tout ça. Donc, à part pour ceux qui vraiment ont envie de bidouiller très 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 fort, ça me paraît très 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 compliqué. Mais après, alors pourquoi j'ai pas dit oui? Enfin, totalement oui. Parce que finalement, le cadre législatif, il est en train de changer, on ne sait jamais finalement.
Eh ouais.
Non, mais avoir plusieurs App Store, c'est pas... voilà, on va y venir, c'est une certitude. Hein, aux États-Unis, je pense que voilà, la messe est dite, pardon. Alors, qui sait, d'ici à ce que l'on casse le lien entre le logiciel et le matériel, c'est finalement, voilà, bon.
Les procès antitrust et tout ça se concentrent plutôt sur l'iPhone. Alors c'est plutôt l'iPhone qui va passer à Android un jour.
Ouais. Non, non, mais bon, plus sérieusement, difficile de te donner tort. Je crois que le Hackintosh de Nicolas est bien parti pour finir dans un musée.
Et on va terminer le tour de l'actu avec une idée lancée par Najat Vallaud-Belkacem. Partant du constat que certaines personnes ont un souci de dépendance aux écrans et que le temps passé devant ces écrans n'est pas toujours bien employé, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale propose une solution, c'est rationner Internet. Alors je la cite, si nous savons que nous n'avons que 3 gigas à utiliser sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD. Fin de citation. La dépendance aux écrans est un vrai sujet, mais est-ce que rationner l'usage d'Internet, c'est une bonne solution?
Non, mais c'est ça, ouais, les bras m'en tombent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça m'inquiète presque qu'on ait pu confier l'avenir des enfants, nos enfants à une telle personne. J'en sais rien, peut-être elle a des vrais problèmes avec Internet, qu'elle passe trop de temps sur des réseaux sociaux. Elle m'inquiète quand elle dit qu'il y a des gens qui passent plusieurs heures sur des sites pornographiques. Je sais pas si elle prend son cas pour une généralité, enfin, je sais pas. La modération, de manière générale, et je ne parle pas que d'elle, les politiques devraient sans doute se l'appliquer en premier. Certains sont sans doute un peu accros à Twitter et aux chaînes d'infos en continu. Si les politiques ne se muaient pas en trolls, peut-être que le débat démocratique et la qualité de notre vie politique en seraient meilleurs. Mais voilà. Et voilà, y a des enjeux ultra complexes avec Internet et il y a certaines choses, effectivement. Alors. Ce que fait l'IA générative, enfin moi je veux le dire, je suis un peu comme un gamin quand je vois ces trucs-là, moi ça m'émerveille. Mais en même temps, effectivement, ça peut faire peur quand on réfléchit à certaines conséquences. Et c'est là, quand je parlais de qualité démocratique, j'entendais, alors complètement par hasard, justement sur les réseaux sociaux, justement sur ce méchant Twitter, un député, je crois qu'il était de Singapour, et il parlait de l'importance de l'intelligence artificielle et des moyens qu'il fallait donner à l'éducation pour que les enfants puissent apprendre à travailler et à cohabiter avec l'intelligence artificielle. On est quand même à, voilà, enfin, sur son discours, il était très intéressant, on est quand même à des années de lumière de ce que l'on peut malheureusement entendre en France, et ça, je pense, enfin, qu'on peut que sans désolé. Mais voilà.
Bah écoute, on va finir sur ça.
Ouais, c'est décevant.
Bah merci pour ce retour de l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous. Et donc, voilà, merci. Donc, j'encourage nos éditeurs à ne pas passer trop de temps à mettre des cas, à publier des commentaires haineux ou à fabriquer des fakes.
À la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous. Salut!